Vous écoutez Vie d'aventure par Denis Brognard.
Anne Kéméré se définit comme une Bretonne de naissance, de sang et de cœur. Après avoir traversé deux fois l'Atlantique à la rame, elle est la première à rallier la France depuis New York à bord d'une embarcation tractée par une aile de cerf-volant, un kitesurf. Femme de conviction, née avec le gène de l'aventure, Anne Kéméré a cette volonté plus forte que la raison qui l'emmène de l'Atlantique au Pacifique jusqu'aux terres hostiles de l'Arctique. Ses grands yeux bleus vous fixent, ses mots vous emportent sur les océans avec elle. Anne Kéméré est aujourd'hui mon invitée dans Vie d'aventure. Bonjour Anne Kéméré.
Bonjour Denis Brognard.
Même quand tu es à terre comme aujourd'hui, ton regard est tourné vers la mer, chez toi, dans le Cap Sizun, l'une des pointes bretonnes dans le Finistère.
J'ai la mer qui est là, devant les yeux, toute la journée. C'est pas une aventure au quotidien, mais c'est un éloignement au quotidien.
D'où te vient la passion d'aventurière ?
Là, je ne sais pas si c'est une vocation, c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui une philosophie de vie ou quelque chose qui m'anime mais qui m'a sans doute animée depuis que je suis enfant. J'ai eu la chance de grandir dans une famille qui avait les pieds dans l'eau, avec un père qui, entre autres de ses activités, filmait les grands rassemblements maritimes d'une époque qui aujourd'hui n'existe plus. Mais je pense que le retour à la maison, il avait les yeux qui brillaient, il partageait un peu de ce monde qui, moi, me paraissait complètement magique. Donc je pense que, oui, lorsqu'on est bercé dans cette ambiance, quelque part, on s'en imprègne.
Et il y a aussi la lecture d'un livre de Paul-Émile Victor qui te transporte et qui te permet, petite, de t'évader.
J'étais vraiment petite, parce que je pense que j'avais 5-6 ans, et c'était ce fameux Apoutsiak, le petit flocon de neige, qui est un livre qui a bercé vraiment mon enfance. J'en connais chaque ligne, et au-delà des lignes, j'en connais surtout chaque dessin et chaque détail dans le dessin. Donc il a occupé beaucoup de mes nuits d'enfant, parce que je lisais énormément lorsque c'était interdit. J'avais déjà peut-être ce goût de transgresser certains interdits. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment transporté dans un monde qui me paraissait à l'époque irréel, inatteignable, un espèce d'Eldorado que j'ai découvert par la suite.
Peut-on dire que depuis ton plus jeune âge, tu étais une baroudeuse, un petit peu un garçon manqué et que tu avais déjà besoin d'évasion ?
Oui, je pense que mes parents pourraient confirmer que j'étais toujours celle qui avait envie d'aller voir derrière la barrière, aller plus loin que la seule rue qui nous était autorisée, découvrir. J'étais curieuse, j'ai toujours été très curieuse.
Ta première aventure, finalement, Anne, avant d'être projetée sur les océans du monde, c'est ton départ pour les États-Unis, sitôt tes études terminées à Rennes.
Oui, en quelque sorte, je pense. J'ai aussi réalisé que c'était un bon moment pour moi, en tout cas, d'aller voir ailleurs, cet ailleurs qui me tendait les bras, et puis cette envie irrépressible d'aller découvrir. Et pourquoi les États-Unis ? Je pense que on était encore dans cette époque de l'American Dream. Ça me paraissait être un pays qui allait me permettre de découvrir une culture qui, comme ça, vu de chez nous semblait assez semblable à la nôtre, et puis finalement qui n'était pas du tout celle dans laquelle j'avais baigné jusqu'à présent.
Tu restes 10 ans aux États-Unis, tu es notamment là-bas guide touristique, et puis, à un moment, en 2002, tu décides de traverser l'Atlantique à la rame. À quel moment et pourquoi tu franchis le pas ? Tu deviens cette aventurière ?
J'avais pas mal baroudé, puisque en étant guide touristique, j'ai eu cette chance de vraiment découvrir tous les États-Unis. Et est arrivé un moment, je suis rentrée en Bretagne un été. C'était à l'époque des grands rassemblements, des fêtes maritimes de Brest. J'ai pu réembarquer avec mon père sur une yole, qui est un bateau en bois traditionnel, et me réentraîner un petit peu sur l'eau. Et là, j'ai réalisé tout à coup que, enfin tout à coup, je pense que le cheminement se faisait déjà depuis pas mal de temps, mais j'ai vraiment réalisé que ma place, elle était peut-être plus dans cette vie américaine, mais qu'il y avait quelque chose que j'avais envie de découvrir dans cette nouvelle dimension de l'océan.
Alors là, pendant 56 jours, tu traverses l'Atlantique en partant des Canaries et en arrivant aux Antilles. Tu dis de cette expérience que c'est pour toi une quête personnelle, un retour à l'essentiel. Tu voulais te prouver quelque chose ?
Je ne suis pas sûre vraiment que je cherchais à me prouver quelque chose. Je crois que j'avais besoin d'un espèce de sas, d'un espèce de déconfinement par rapport à ma vie un peu trépidante aux États-Unis. Hein. C'était du 24 heures sur 24, c'était des déplacements permanents, pas beaucoup de temps pour la réflexion, plus beaucoup de temps pour la lecture. Et en regardant un petit peu cette vie, j'ai compris qu'il y avait eu beaucoup d'enrichissement, que j'avais grandi aussi beaucoup de ces voyages et de la rencontre avec l'autre et de la rencontre avec des cultures qui n'étaient pas les miennes, mais j'avais envie d'aller plus loin et de me recentrer peut-être à un moment où justement j'avais 30 ans, je voyais ce que je venais d'accomplir et je me disais que j'étais pas tout à fait en accord avec les valeurs qui étaient les miennes.
Tu voulais donner un sens à ta vie ?
Oui, il y avait peut-être cette idée-là, donner un sens plus profond à cette existence que je savais finalement très courte. À 20 ans, je suis partie en me disant que j'avais la vie devant moi. À 30 ans, j'ai réalisé à quel point l'existence est quand même très courte et que si on veut lui donner un sens, il faut l'enrichir tous les jours.
Qu'est-ce qui a été, Anne, le plus dur à vivre pendant cette traversée qui a duré pratiquement 2 mois?
La dimension en fait que j'avais le plus difficilement appréhendée, c'était la solitude. On peut être seul chez soi, on a été seul récemment les uns les autres dans ce qui nous est arrivé, mais la solitude extrême qui est celle que l'on découvre lorsqu'on est dans un univers liquide, donc déjà qui n'est pas notre univers à la base, quand notre horizon de 360 degrés nous montre qu'il n'y a rien d'autre que nous, l'océan et la vie sous l'eau et dans les airs, c'est vrai qu'arrive un moment où on se dit que c'est indigeste, que l'homme n'est pas fait pour vivre seul, et c'est une adaptation quotidienne. Ça a été certainement la chose la plus difficile, en tout cas, sur cette première aventure.
Comment tu as ressenti la peur sur cette première très grande aventure au milieu de l'Atlantique ?
On a peur tout simplement de la mort. On sait que si on quitte le bateau, par exemple parce qu'on tombe à l'eau, ou que le bateau chavire et qu'on n'y était pas préparé, on sait qu'on ne pourra pas remonter à bord parce qu'on est seul. Donc il n'y a personne pour nous récupérer. On sait tous aujourd'hui que la vie entraînera systématiquement la mort, mais c'est quelque chose qui est un concept. C'est pas quelque chose qu'on vit réellement. Alors qu'en mer, lorsqu'on est seul, je pense qu'on prend vraiment compte de cette dimension-là. Et elle permet à partir de là de relativiser tout ce qui peut arriver.
Et on est, Anne, dans cette situation-là, seule responsable de son destin.
Tout à fait. Je ne l'ai peut-être pas réalisé quand j'étais en mer, parce que quand on est en mer et qu'on est dans l'action, on essaye d'encaisser au maximum, de s'adapter au mieux, mais il faut le recul du retour à terre pour justement se rendre compte de tout ça petit à petit. On grandit de l'expérience avec le recul, mais pas dans l'action.
Alors ça ne te suffit pas. Tu traverses dans un sens en 2002 et 2 ans plus tard, bien tu veux que ce soit plus long, plus dur. Et là, tu t'attaques à la traversée de l'Atlantique Nord en partant du continent américain pour revenir jusqu'à chez nous. Et tu dis à ce moment-là, il y a des dingues partout. Faut dire qu'on te comprend parce que tu vas rester 87 jours en mer pour parcourir 6450 kilomètres.
C'est vrai que c'était un peu mon Graal, d'une part parce que l'Atlantique, depuis les Canaries jusqu'aux Antilles, était une traversée, on va dire, même si elle était difficile, parce que c'était ma première pour moi, j'étais sur une route favorable.
Tu étais porté par les vents, ces fameux alizés.
Voilà, j'étais porté par les vents, j'étais porté par la houle, et je savais que c'était une traversée qui n'était pas aussi longue que pourrait l'être celle de l'Atlantique Nord. Il y avait cette symbolique aussi de relier un pays où j'avais vécu pendant 10 ans et j'avais laissé un petit bout de mon cœur là-bas quand même, et puis arriver chez moi en Bretagne. Ça, c'était vraiment quelque chose qui symboliquement pour moi représentait énormément. Et puis, oui, il y avait ce défi qui rajoutait un peu de difficulté à la difficulté déjà existante. Et c'était un moteur parce que j'ai l'impression que quand on sort de sa zone de confort, quand on, sans se, c'est pas une histoire de se mettre en danger et de prendre des risques inutiles, mais c'est d'aller toujours chercher un petit peu plus loin dans ce qu'on pense être capable de faire. Et finalement, quand on réalise qu'on peut aller bien plus loin que la frontière qu'on s'était érigée, et c'est ça que je crois qui m'intéressait dans ce deuxième voyage.
Tu as donc repoussé tes limites. Je te cite encore une fois, tu dis « la peur ne doit pas gangréner mes élans ». Est-ce que tu l'as ressenti, cette peur, parce que c'était plus difficile, plus engagé, cette deuxième traversée, et surtout plus long ?
Oui, c'est vrai que il y a eu de nombreuses journées, dont celle très difficile de la rencontre avec un ouragan qui s'appelait Alex. Il y a eu Charley et il y a eu Alex. Donc ces rencontres-là avec une nature démesurée, avec une force, vraiment une violence qui nous malmène, ont été des moments où j'ai cru ne pas rentrer. Et ce sont pas les moments les plus agréables, évidemment.
Tu as eu peur de mourir à ce moment-là ?
Bien sûr, bien sûr.
Raconte-nous comment ça se passait, la taille des vagues, la façon dont tu gères ça. Est-ce que tu es calfeutré à l'intérieur de ton habitacle ? Emmène-nous avec toi dans l'océan.
La situation a été assez étrange, puisque j'avais contact avec un routeur, c'est-à-dire c'est une personne qui nous, avec qui on fait le point en général sur la météo, puisque moi je n'avais pas de carte météo bien définie, et ce routeur donc me permettait toutes les 48 heures de voir à peu près à quoi me préparer. Ça c'est important quand même, parce que quand on s'y prépare, le choc est toujours moins violent. Il me dit, mais t'inquiète pas, ce genre d'ouragan va se transformer en tempête tropicale, puis il va mourir bien avant d'arriver jusqu'à toi. De 48 heures, on est passé à 24 heures, puis on est passé à 12 heures, puis en fait à 6 heures. Et là, j'ai bien compris à un moment ou à un autre que cet ouragan, je ne pourrais plus l'éviter. Et donc la première chose à laquelle on pense, évidemment, c'est assurer la sécurité. Donc assurer la sécurité, ça veut dire qu'on amarre tout à l'intérieur. Le bateau n'est pas très grand, hein, il fait 6 mètres de long. La cabine, elle est très petite puisqu'elle fait 2 mètres. On a juste de quoi s'allonger. Et donc une fois que tout a été amarré, on a pris en tout cas toutes les mesures qui permettaient d'assurer notre survie, ben, on s'enferme dans la cabine et on attend. Et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est arrivé, je devais être en mer déjà depuis plus d'un mois. Et donc j'avais déjà cette adaptation qui me permettait de regarder le ciel, qui me permettait de voir les oiseaux marins par exemple autour de moi. Et très vite, il y a eu un vide. Je me suis retrouvée là pour le coup absolument seule, c'est-à-dire que les oiseaux marins avaient tous disparu, les dauphins que je croisais régulièrement avait disparu également, et on se dit qu'il va se passer quelque chose, on le sent. Et ça, c'est quelque chose qui m'a ramené vraiment dans l'histoire première des hommes, qui devait avoir cet instinct animal que l'on a perdu. Alors, je pense pas qu'on l'ait perdu, il est masqué, parce que la société aujourd'hui nous empêche parfois de voir le ciel, nous empêche de regarder la nature, et que la ville a étouffé cet instinct, mais il est là, et on le retrouve très vite, justement, lorsqu'on se retrouve en montagne, j'imagine, dans un désert ou en mer. Et là, je me suis dit, il faut vraiment essayer de contrôler cette peur que je sens monter en moi. La peur, elle est salutaire, parce que la peur nous permet de vraiment prendre les mesures pour éviter l'accident. Mais si cette peur se transforme en angoisse, c'est crescendo, là, l'angoisse peut nous faire faire n'importe quoi, et c'est celle-là qu'il faut absolument éviter. Mais bon, c'est bien de le dire quand on est assis dans son canapé confortablement. C'est un peu une autre histoire quand on se retrouve dans ces éléments et on voit petit à petit, hein, la mer commence à changer de couleur.
Ça dure combien de temps? Les vents soufflent à quelle vitesse qu'on se rende compte?
Alors ça vient petit à petit, ça monte petit à petit. Hein. C'est vraiment comme un film. On est dans un film à suspense où on a presque cette musique qui est là pour nous accompagner et qui devient de plus en plus dramatique. Donc les vents passent alors tranquillement. On est à du 10-15 km/h et puis on va se retrouver à monter jusqu'à des vents qui atteignent 100-110 km/h. C'est vrai que pour quelqu'un qui ne navigue pas, 110 km/h c'est la vitesse d'une voiture, donc on se rend pas bien compte. Mais imaginez l'impact. Parce que c'est vraiment l'impact. La mer, dans ce cas-là, ne devient plus cet élément fluide autour de nous, mais on a l'impression que à chaque vague qui nous malmène, on se fracasse contre un mur. Et j'ai souvent eu cette image, et je l'utilise pour essayer d'expliquer aux gens qui sont des terriens. J'ai eu l'impression d'être dans une voiture. On m'avait mis une ceinture de sécurité. Je roulais à pleine vitesse, et on m'avait prévenu que à un moment ou à un autre. J'allais me cracher dans un mur. C'était ça, cette sensation. On est comme une boule, on est tendu et on attend le clash, mais sans savoir à quel moment il va nous tomber dessus.
Alors Anne, à ce moment-là, comment tu réagis justement? Comment tu évacues ce stress? Tu pleures, tu cries, tu ris, tu te parles à toi-même? Qu'on puisse imaginer.
Alors, il y a un peu de tout ça. Bon, ça a duré 72 heures. Et 72 heures, c'est vraiment, c'est chaque minute de 72 heures pendant lesquelles on écoute notre respiration. On essaye justement de contrôler cette peur pour qu'elle reste gérable. Il y a des moments où oui, on pleure. Il y a des moments où oui, évidemment, on doute et on se demande bien ce qu'on fout là. Il y a des moments presque où on regrette d'avoir pris la décision d'oser, parce qu'on se dit mais est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle, parce que ce sont des moments d'une extrême violence. Et puis il y a un moment où on se dit mais ce qui est arrivé là, une tempête, elle va finir par passer, d'abord parce qu'elle est extrêmement violente, parce que les vents sont extrêmement rapides, derrière il va y avoir cette petite lumière qui va arriver, et c'est celle-là auquel il faut que je pense, et c'est sur celle-là que je dois me focaliser absolument, c'est l'après. Comme il va être bon cet après. Et ça, c'est le côté pensée positive que certaines personnes ont en eux. C'est essayer de contrôler les émotions qui peuvent venir à ce moment-là pour essayer de fonctionner comme une machine. Et c'est terrible de se dire que, oui, dans ces moments-là, il faut presque redevenir une machine bien huilée et être capable de laisser notre cerveau reprendre la main sur notre existence.
Ce qui est incroyable, Anne, c'est qu'on est vraiment avec toi dans ta petite embarcation. Alors justement, j'ai quelques questions très précises à te poser pour que on se rende compte de la progression sur ces 6450 km du parcours. Combien d'heures par jour tu rames ?
Moi, je m'étais trouvé un rythme que j'avais déjà trouvé sur ma première traversée, que j'essayais de maintenir dans la mesure du possible, qui était de ramer pendant 6 heures. Puis ensuite, je prenais 1 à 2 heures de... Alors, ce n'était pas que du repos, hein, c'était le temps de manger. Le temps des soins, parce que les soins sont très importants. Il faut imaginer qu'on est assis en permanence, et évidemment, ça crée des frottements. Donc, j'avais des escars. Les escars sont arrivés 15 jours après le départ. Escar veut dire une éventuelle infection. Infection veut dire que souffrance. Et là, c'est encore une fois le cerveau qui doit gérer pour éviter que la souffrance devienne insupportable. Donc, ce temps de soins était très important. Comme un espèce de baume au cœur et puis un baume de toute façon bien réel sur le corps. Et donc après ça, c'était après le moment de l'endormissement, je veux dire, qui est très rapide, hein, parce qu'on est quand même extrêmement fatigué et on sait que ce moment-là doit être vraiment profitable pour reprendre de l'énergie. Ça me permettait de conserver une forme de routine, je vais dire entre guillemets, mais qui est absolument indispensable. Sinon, je pense qu'on peut très vite partir à la dérive, et c'était pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'était quand même d'arriver de l'autre côté saine et sauve.
Combien de kilomètres par jour, en moyenne ?
45 000 nautiques, ça représente à peu près, on va dire, 80 kilomètres. Mais ce qui est complètement, enfin, qui me fait sourire encore aussi aujourd'hui, c'est que mes plus belles journées ont été celles où je n'ai pas ramé, puisque les plus belles journées ont été celles où j'ai été malmenée par cet ouragan qui me poussait dans la bonne direction. Et lorsque j'étais sur des déferlantes, mon bateau prenait évidemment de la vitesse et je pouvais faire des pointes à presque 20 km/h, ce qui est énorme pour un bateau aussi petit que le mien.
Une question qu'on se pose tous, dans la mer, dans ce sens-là, quand tu t'arrêtes de ramer, est-ce que tu recules ?
C'est arrivé très souvent. Ça, c'est, je dirais que c'est le scénario le plus difficile à vivre, puisque quand on a ramé, qu'on s'est acharné pendant des journées et des journées, et qu'il suffit que les vents tournent et nous repoussent dans le sens inverse, en 24 heures parfois, j'ai reculé de ce que j'avais pu accomplir pendant 3 jours auparavant. Donc il y a vraiment des grands moments de découragement dans ce cas-là, et on a l'impression qu'on va rester là pour toujours. Ce qui est complètement aberrant. Quand on revient à terre, on se dit mais comment j'ai pu imaginer que ça ne s'arrêterait jamais. Mais c'est ce mode de vie, en tout cas sur l'eau, qui nous fait perdre très vite nos repères, malmène, je pense aussi, beaucoup des codes qui sont les nôtres aujourd'hui quand on vit à terre.
Dans l'immensité de l'océan, ton petit bateau, c'est comme une coque de noix. Est-ce que tu as chaviré sur cette traversée ?
Alors oui, j'ai chaviré à plusieurs reprises. Je m'y étais préparée puisque j'avais échangé avec Gérard Daboville, qui a été le premier Français à traverser sur cette route. Et on avait fait, bien sûr, au préalable, des essais de chavirage et puis des essais d'auto-redressement puisque le bateau était censé se redresser par lui-même. Donc tout ça, ça avait été fait, bien sûr, dans un port, avec l'équipe qui m'entourait, dans des conditions, on va dire, idéale, mais je savais que je pouvais avoir confiance en mon bateau. Donc ça, c'est quand même une donnée très importante. Après, lorsque le chavirage arrive, évidemment, c'est encore une fois, hein, je fais référence à l'accident de voiture, mais je pense que il parle beaucoup plus aux gens. C'est extrêmement soudain, c'est extrêmement violent, et on a le temps de vraiment le réaliser que lorsqu'il s'est passé, pas lorsqu'on le vit. Donc la peur, finalement, elle est rétrospective. On se dit, ouf, une fois qu'on a vraiment regardé si on n'avait rien de cassé, qu'on a vérifié qu'il n'y avait pas d'avarie dans le bateau, parce que c'est ça le risque, évidemment, que on est dans le bon sens et que finalement tout va bien, c'est vrai que là, la peur, elle arrive de façon rétrospective parce qu'on imagine qu'on a échappé au pire.
Mais ça ne te suffit pas, hein, ces traversées de l'Atlantique à la rame. Tu choisis à nouveau l'Atlantique Nord, mais là, avec un projet unique, puisque tu vas devenir la première femme à réaliser cette performance, tu traverses l'océan Atlantique dans un petit bateau tracté par un kitesurf, une aile de cerf-volant. Mais d'où te vient cette idée ?
Alors, l'idée n'est pas de moi. L'architecte qui avait conçu mon bateau d'aviron, qui avait conçu mes deux bateaux d'aviron, m'attendait à l'arrivée comme beaucoup de monde. Et très rapidement me dit, tu sais, pendant que tu étais en mer, je me suis dit que l'aviron c'était bien, mais quand même 87 jours pour traverser l'Atlantique aujourd'hui, en moins d'une semaine, ça se fait à la voile. J'ai imaginé que ton bateau, ou en tout cas un bateau de la même taille que celui avec lequel tu traverses à l'aviron, mais tracté par une aile de kite, pourrait quand même une super. Et dessiner le bateau. Par contre, est-ce que toi tu serais partante dans l'aventure ? Et il m'a pas fallu très très longtemps, parce que je crois que 15 jours ou 3 semaines après mon arrivée, on replongeait la tête dedans. Alors, il y avait l'idée du défi, bien sûr, que je trouvais intéressante, mais on apportait quelque chose de nouveau au projet, c'est qu'il y avait une idée d'innover. Cette idée de transporter un kite qui, jusqu'à présent, restait sur le bord des plages, de l'amener à faire un grand voyage, ça, c'était quelque chose qui devenait d'un seul coup complètement excitant. Et oui, j'y ai adhéré tout de suite.
Alors, à ce moment-là, tu dis... Je suis à ma place sur ce petit bout de vie que j'ai choisi. Et puis tu ajoutes, notre existence se résume à tout risquer pour poursuivre un rêve que personne d'autre ne peut comprendre. Les gens qui t'entourent étaient dans une forme d'incompréhension?
Oui et non. Je pense que s'il y a quelqu'un qui a parfaitement compris à quel point j'étais à ma place sur l'océan, c'est mon père. Je crois qu'on se ressemble beaucoup. Il a vécu sa vie avec cette même passion. Il nous a montré cet exemple-là, je crois, sans jamais nous donner de leçons, sans jamais nous encourager ou nous décourager. Lorsque j'ai mis ces projets-là sur pied, il a été mon premier lieutenant, il l'est resté tout le temps, et il m'a aidé à préparer mes bateaux, probablement mieux encore qu'il ne l'aurait fait pour ses propres bateaux. Donc j'avais ce soutien qui était formidable. Et puis j'ai eu une mère qui, elle, est une terrienne, mais qui a eu ces très belles paroles alors qu'elle échangeait avec une amie. Elle lui disait je suis morte de trouille quand ma fille est sur l'eau. Je vais pas dormir pendant tout le temps de sa traversée, mais je suis heureuse de savoir qu'elle est heureuse là où elle est. Et je trouve que il y a rien de plus beau que d'être capable, malgré ses peurs et ses angoisses, je dirais, d'être à côté de ce qu'on aime et d'essayer de comprendre, même si ça nous échappe parfois, que leur vie peut être différente de ce qu'on avait imaginé.
Puisque tu parles de ta famille, moi je voudrais qu'on aborde ta fille, Elina, née en 1997. Mmh. Au moment de cette grande première, elle a 9 ans. Mmh. Comment réagit-elle aux idées, j'ai envie de dire farfelues, de sa maman et à ses aventures ?
Elle avait 3 ans lorsque je suis partie sur ma première traversée. Sa mère a toujours fait ça, c'est son boulot. Elle se pose pas plus de questions, et je crois que c'est le cas de tout enfant. Son univers, lorsqu'il est petit, c'est sa famille avant tout. Et donc, pour elle, je ne suis pas sûre que le côté insensé qui peut être celui du regard des autres soit le sien. Aujourd'hui qu'elle a bien grandi, j'espère justement que j'ai pu lui enseigner la passion, oser sortir de sa zone de confort et puis aller jusqu'au bout de son existence à elle, quoi qu'en disent les autres. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important.
Entre 2000 et 2006, tout te sourit, 3 aventures, 3 réussites. Et c'est à ce moment-là que la machine se grippe un petit peu quand tu décides avec ton bateau et ton kitesurf d'aller encore plus loin et de traverser le Pacifique. La première fois, entre San Francisco et Papeete, à Tahiti, en 2008, bah malheureusement, tu n'arrives pas au bout. Est-ce que tu l'as mal vécu d'être récupéré au milieu de ce Pacifique par un cargo ? Est-ce que cet échec a été dur à avaler ?
Eh ben non. Curieusement, non. Je suis effectivement partie de San Francisco. Je me suis retrouvée dans une zone que l'on appelle le poteau noir. C'est la zone un peu complexe, hein, qui est proche de l'équateur, où la météo est assez excessive d'un côté comme de l'autre. Donc je me suis retrouvée encalminée pendant une quinzaine de jours. Et puis quand les vents ont recommencé à souffler, ils étaient extrêmement puissants, très désordonnés. Et j'ai fait l'erreur de lancer le plus gros kite que j'avais de façon à me sortir de cette situation le plus vite possible. Donc, grosse rafale, ce cerf-volant pilotable se retrouve pris dans la rafale et arrache une partie du pont. Donc, évidemment, le constat est sans appel. Je n'avais absolument pas moyen, surtout là où se trouvait l'attraction. Hein, c'était vraiment le point central du bateau, le point névralgique du bateau. C'est la cata. Et alors, il n'y avait pas une urgence, hein, j'étais pas dans une situation désespérée, mais je me retrouvais avec un bateau qui n'était plus manœuvrant. Donc, j'ai appelé pour exposer la situation. Et j'ai eu une certaine chance dans mon malheur, c'est que il y avait un ouragan dans le nord du Pacifique et un cargo se détournait pour éviter cet ouragan et se retrouvait quasiment sur la même route que la mienne. Et c'est comme ça qu'ils se sont proposés, mais c'est aussi de toute façon la solidarité des gens de mer. Hein. On ne laisse pas quelqu'un en dérive sur l'océan lorsqu'on est à proximité. Ils sont venus me récupérer. Et alors. Oui, évidemment, dans ce moment particulier, hein, le moment de la récupération, ce moment où on se dit c'est fini, ça c'est un moment extrêmement violent auquel je m'étais pas vraiment préparée. Et mais c'est là où très vite je me rends compte que je vais vivre une histoire que peu de gens ont vécue. Parce que je suis récupérée par cet équipage de 28 hommes, ils cheminent vers Panama, puis ils se rendent sur New York. Et je vis avec eux pendant 3 semaines. Donc, je me retrouve vraiment avec une espèce de petite société très internationale où l'anglais, évidemment, est la langue parlée. Et c'est comme ça qu'on réussit à échanger. Et avec un petit traitement de faveur, puisque moi, j'ai le droit de monter en passerelle et d'être présente à toutes les manœuvres à tout moment. Et je me dis, mais... Enfin, je suis là, de toute façon, l'histoire s'est écrite ainsi. Ça sert à rien de m'enfermer dans ma cabine et de pleurer pendant les 3 semaines qui vont venir. C'est le moment ou jamais de découvrir cette vie à bord qui, quand même, m'a souvent interrogée. Et j'ai vraiment vécu un
truc. Et puis, t'es la seule femme, surtout.
Oui.
T'as dû être bichonnée puisque t'étais la seule femme.
Ah ouais, ça, j'ai été bichonnée. Ils ont été, mais adorables. C'était incroyable. Le jour où j'ai débarqué à New York, après 3 semaines de voyage, comme j'étais partie sur le Pacifique et j'étais plutôt habillée en t-shirt et en vêtements légers, j'arrivais à New York au mois de janvier. On était en pleine tempête de neige. Plein d'hommes d'équipage. Alors, il y en a un qui m'avait tricoté des chaussettes. Il y en a un qui m'a offert sa chapka. Il y en a un, c'était le commandant de bord qui faisait quand même une taille 3XL, qui m'a offert sa doudoune dans laquelle je nageais. Mais pour moi, c'est quelque chose que je garderai, mais toujours, ancré au fond de moi. Ça a été une expérience absolument fabuleuse. Traverser le canal de Panama à bord d'un cargo, voir la manœuvre, le millimétrage avec lequel ça se passe, comprendre toute la logistique qui est mise en place, ça a été vraiment quelque chose d'extrêmement enrichissant. Ça a rajouté à l'aventure dans l'aventure. Et c'est très vite j'ai compris, je me suis dit, ben finalement, est-ce que le but premier dans une aventure, c'est d'emprunter le chemin qu'on avait dessiné dans la préparation de cette aventure. Est-ce que il ne faut pas, lorsque ça ne se passe pas comme prévu, est-ce qu'il ne faut pas au contraire se dire que c'est peut-être l'opportunité rêvée d'aller découvrir un chemin qu'on n'avait même pas imaginé?
Tu vas repartir sur ce fameux Pacifique et cette fois-ci tu vas réussir en 2011, entre le Pérou et la Polynésie, 7000 km, 78 jours, tracté donc par... Ce cerf-volant, cette aile de kitesurf, c'est une première mondiale. Mais ce qui m'intéresse sur cette expérience-là, c'est le parallèle qu'on peut faire avec Éric Tabarly lors de la Transat en 76 sur son Penduic 6, lorsque pendant 24 jours, il est sans moyen de communication et qu'il gagne cette deuxième Transat en solitaire à la surprise générale parce qu'on ne sait pas à ce moment-là où il est. Toi, tu te retrouves dans la même situation puisque ton téléphone satellite est hors d'usage et que pendant 2 mois, tu vas être totalement seul au monde, sans aucun moyen de communiquer.
Oui, là, d'un seul coup, le jour de l'accident nucléaire de Fukushima, mon sponsor m'appelle pour me raconter, enfin pour me dire brièvement qu'un tsunami était attendu sur les côtes péruviennes, qu'il fallait que je m'en éloigne le plus vite possible, puisque en cas de tsunami, on sait très bien que l'endroit le plus sûr, c'est dans la haute mer. Et là, on est coupé. Et je me dis, bon, dans un premier temps, on sait très bien que les communications satellites ne sont pas toujours fiables, que les communications sont souvent coupées, donc je ne m'affole pas plus que ça, je me dis, je vais rappeler dans 1 heure, dans 2 heures, dans 3 heures, ce que je fais régulièrement, jusqu'à ce qu'une journée passe, 2 journées, 1 semaine, et là, je réalise que mes communications sont définitivement rompues avec la Terre, et qu'il va donc falloir que je m'achemine tant bien que mal, sans avoir cette connexion que j'avais eue jusqu'à présent. Et avec quand même une donnée un peu bizarre, qui était cette information sur l'accident nucléaire. Et c'est vrai qu'il y a eu cette période extrêmement étrange où, pendant un moment, un peu peut-être à la façon des premiers marins qui étaient persuadés que la Terre était plate et qu'à un moment, ils arriveraient au bord et ils allaient tomber dans le vide, moi, je me demandais, mais est-ce que cet accident nucléaire, est-ce que c'est ça qui a provoqué peut-être la chute des satellites et la raison pour laquelle la communication ne fonctionne plus ? Est-ce que le tsunami n'aura pas submergé les îles vers lesquelles je me dirige ? Donc, on se met tous les scénarios en tête les plus noirs, en général. On est assez peu optimiste dans ces cas-là. Et jusqu'au moment, et c'est ça qui est assez fascinant, où on sent qu'il y a un certain lâcher-prise. Et on se dit, je suis vivante, je suis là, là exactement où je voulais être. Les communications ne sont pas essentielles à la navigation et au cap. J'ai mon GPS, il fonctionne toujours, je sais dans quelle direction je suis en train d'aller. Donc j'ai l'essentiel. Et cet essentiel-là, bah ça me suffit. Et il y a comme un espèce de déclic dans le cerveau qui est pour moi vraiment un lâcher prise. Je m'adapte et je continue parce que je vais bien, le bateau va bien, la route est belle et coûte que coûte, je vais l'accomplir.
Alors Anne, bien évidemment, de ton côté, on comprend cet optimisme parce que tout va bien à bord. Mais tu imagines la réaction de tes proches, celle de ta fille, de tes parents, de tes amis qui n'ont plus aucun contact et qui ne savent pas du tout ce qui a pu t'arriver pendant ces 2 mois.
C'est ça qui m'a empoisonné la vie au quotidien, c'est de me dire mais comment puis-je rassurer les gens à terre, parce que j'imaginais bien que ça devait être extrêmement compliqué pour eux, et je me disais mais comment je peux faire. Alors j'avais espoir de croiser un bateau, mais on n'est pas du tout sur une route commerciale, entre le Pérou et Tahiti il n'y a aucun cargo, ce qui n'est pas le cas de l'Atlantique. Heureusement j'avais à bord une petite balise qui permettait à terre d'avoir quand même la position du bateau toutes les 24 heures. Et mon père, étant un marin averti, faisait le point toutes ces 24 heures, et il savait très bien, puisqu'il avait suivi les entraînements, qu'une aile de kite, une aile de cerf-volant pilotable, lorsqu'elle n'est plus maniée par une main humaine, elle tombe à l'eau, et là, le bateau serait parti à la dérive. Et lui voyait que la route était une route qui restait parfaitement droite et un cap qui était maintenu. Et donc c'est lui qui a rassuré tout le monde. J'imagine qu'il était quand même un peu inquiet. Il se doutait bien que je pouvais avoir éventuellement une jambe cassée et je pouvais continuer à naviguer. Mais il savait qu'a priori j'étais en bonne santé à bord et qu'en tout cas j'étais capable de continuer à naviguer.
Anne, le moindre problème peut devenir dramatique sans échange possible.
Je crois qu'il y a un moment où il y a aussi cette case de la peur qu'il faut absolument mettre de côté. J'ai fait un choix de vie. C'est aujourd'hui une vraie philosophie. Le risque zéro, de toute façon, il n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement acquis aujourd'hui. Quand on voit les événements qui ont pu se passer récemment, on vit aujourd'hui dans une société où on aimerait s'entendre garantir le risque zéro. Mais la vie est un risque. Le jour où on est potentiellement est celui où on peut mourir. Et quand on me dit oui, mais toi tu prends plus de risques que nous, par exemple, qui vivons à terre, c'est pas vrai. Celui qui prend sa voiture tous les jours, est-ce qu'il pense systématiquement à l'accident ? Non. Est-ce que cet accident va lui arriver ? Peut-être pas, mais peut-être oui aussi. Mais on ne peut pas vivre dans la peur permanente de quelque chose qui pourrait ne pas arriver. Je ne sais plus qui me disait ça un jour et je trouvais ça assez joli. C'est un peu comme si on sortait tous les jours avec un parapluie dans la main, au cas où il pourrait pleuvoir. Dans ce cas-là, on ne vivra jamais.
Alors, on a évoqué avec toi tes premières aventures dans l'Atlantique, puis le Pacifique. Mais la trilogie sera complète quand on aura évoqué l'Arctique, les grands froids. Et ça commence en 2010, c'est-à-dire avant ta réussite du Pacifique avec ton kiteboat. Et à ce moment-là, bah, tu pars au Groenland dans une mission beaucoup plus écologique que sportive. Et pour la première fois, tu n'es pas seul, puisqu'au total, vous êtes 4.
Ouais, je suis contactée par une personne qui m'explique un petit peu le but de cette grande dérive, de se retrouver sur une plaque de banquise au Groenland, au sud-est du Groenland, et de se laisser dériver au fil des courants pour voir la vie des icebergs qui vêlent depuis le nord du Groenland, qui vont descendre ensuite tout le long de la côte du Groenland, et puis qui vont aller mourir chaque année au fil de la saison. Et puis, il y avait une dimension également d'aller observer sous la glace. C'est une vie planctonique qui continue à exister. Évidemment, ma curiosité était en tout éveillée. Et puis, il y avait peut-être aussi cette envie de voir... alors déjà, l'Arctique, moi, je pense que là, d'un seul coup, Paul-Émile Victor et Apoutsiak se réveillaient d'un seul coup. Et je réalisais que cette expédition arctique que je n'aurais jamais menée toute seule, parce que l'Arctique est un monde que je ne connaissais absolument pas, où il y a évidemment un mode de vie qui est très particulier. J'avais la chance, c'était une opportunité que de pouvoir aller la découvrir entourée de personnes qui, eux, connaissaient bien le sujet. Il fallait absolument que je dise oui, et j'ai dit oui. Je me revois, comme si c'était hier, je me revois poser le pied à Tassilaq, qui est un petit village au sud-est du Groenland, et j'avais l'impression d'être une gamine. C'était d'un seul coup tout ce dont j'avais rêvé qui était là. Mais il y avait, je saurais même plus l'expliquer aujourd'hui. C'est vraiment la magie de cette enfance qui nous revient. C'est comme ça que j'aime vivre aujourd'hui, avec aussi cette espèce d'instinct ou cette espèce d'intuition qui mène souvent nos existences, où on sait que c'est un moment clé. Et que ce moment clé, on peut décider de ne rien en faire, mais on peut décider aussi de l'emmener un peu plus loin. Et avec cette découverte que j'ai faite au Groenland, avec ce que j'ai pu y apprendre, j'ai réalisé vraiment que c'était un lieu où je voulais revenir et où je ne savais pas encore sous quelle forme, je ne savais pas encore ce que j'avais envie d'y faire, mais il y avait quelque chose en moi vraiment qui avait été fortement ébranlé.
L'Arctique, l'essayer, c'est l'adopter pour toi, Anne. Et donc, en juin 2014, eh bien, tu tentes la traversée du passage du Nord-Ouest, c'est-à-dire cette zone qui permet à l'océan Atlantique et à l'océan Pacifique d'être reliés au niveau de l'Arctique, 5000 km, c'est colossal, et c'est un projet ô combien ambitieux, et tu vas buter sur ce projet à plusieurs reprises.
C'est justement ça qui est intéressant, c'est de voir que la nature n'est pas simple, que la nature nous impose parfois de nous adapter et que la nature parfois aussi dresse des barrières devant nous qu'il faut accepter parce que tout n'est pas possible et tout n'est pas réalisable par un simple coup de baguette magique, je crois.
Ouais. Alors Anne, donc tu pars seule avec ton kayak. Mais là, finalement, t'es pas si seul que ça, puisque les glaces t'entourent et t'entourent beaucoup trop.
Ça fait partie justement de cet univers arctique, cette présence, cette omniprésence des glaces. J'ai trouvé aussi intéressant de pouvoir le vivre. Cette zone particulière du monde est une sorte d'entonnoir, et que les glaces très anciennes pour certaines, qui sont en train de disparaître aujourd'hui, elles vont petit à petit se morceler. Elles vont dériver, évidemment. Les vents dans cette région du monde sont principalement de secteur nord, c'est-à-dire qu'ils vont pousser les glaces vers le sud, alors sud-est, sud-ouest, mais ils vont les pousser, elles vont s'accumuler dans cet entonnoir et ça va créer un énorme embouteillage qui va bloquer le passage du Nord-Ouest. Alors c'est arrivé en 2014, c'est arrivé en 2018, le passage du Nord-Ouest est resté complètement fermé à la navigation pendant toute la saison estivale parce que les glaces y étaient amoncelées. Donc on voit la complexité justement de ce que les bouleversements climatiques aujourd'hui peuvent entraîner.
Mais alors, pour qu'on comprenne bien, donc tu es sur ton kayak, tu es sur la mer, et puis à un moment, malheureusement, tu ne peux plus avancer, tu ne peux plus passer.
C'est ça. La nature, on ne peut plus cheminer comme on avait imaginé, à savoir en kayak, sur l'eau. La seule possibilité dans ce cas-là, c'est de cheminer sur un traîneau, c'est de cheminer, mais ça ne sert à rien de se révolter, ça sert à rien de se battre contre ces éléments-là, puisque la plus belle leçon que la nature puisse nous enseigner à ce moment-là, c'est qu'il y a un moment où on ne peut pas aller contre les forces de la nature.
Anne, il y a donc cet échec en 2014. Mais comme tu es têtu comme une bonne Bretonne, eh bien tu recommences en 2015 avec une nouvelle fois des conditions climatiques qui t'empêchent d'aller au bout de ce projet de la traversée du passage du Nord-Ouest. Troisième possibilité maintenant. Il y a 2 ans seulement où tu pars, pas avec un kayak, mais avec un bateau solaire. C'est quoi un bateau solaire ?
Alors un bateau solaire, en l'occurrence mon petit bateau solaire, c'était le prototype avec lequel j'étais partie sur le Pacifique et qui était équipé d'un kite et qu'on a transformé pour l'adapter à cette navigation solaire, panneau solaire pour le bateau, moteur électrique derrière. Donc je deviens un peu feignante puisque je n'ai plus à pagayer et que je compte sur l'énergie solaire pour me permettre d'avancer.
Alors, c'est une question de béotien maintenant, Anne, mais quand on est au niveau de l'Arctique, le soleil il brille quand même modestement, ça suffit à alimenter des panneaux solaires et un moteur électrique ?
Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans l'image que les gens ont de l'Arctique, on voit une région très peu ensoleillée, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que à partir du moment où le soleil va revenir de sa nuit polaire, le soleil va revenir sur l'horizon et va remonter tranquillement dans le ciel, on a des journées, le soleil par exemple, le solstice du 21 juin, nous donne un ensoleillement en Arctique de 24 heures sur 24. Et c'est vrai que toute cette saison du mois de mai, on va dire jusqu'au mois de septembre est une saison extrêmement ensoleillée où d'ailleurs à certains moments on a pu montrer qu'il y avait plus d'ensoleillement par exemple le 21 juin en Arctique qu'il n'y en a sur l'équateur. Donc ça paraît assez étrange et pourtant c'est une réalité très concrète.
Entre 2014 et 2018, connaissant ta motivation, est-ce que tu te dis que quoi qu'il arrive, un jour, tu le réussiras ce passage du Nord-Ouest ?
C'est assez étrange parce que tu mentionnes beaucoup la notion d'échec, alors que pour moi, j'ai cette notion fortement ancrée d'être en train d'écrire une histoire. Et depuis que je suis en Arctique, pour moi, il n'y a pas une aventure en 2014, une aventure en 2015 et une aventure en 2018, mais bien un début d'histoire en 2014 qui m'a permis de me confronter avec cet univers que je ne connaissais pas, qui m'a aussi permis la rencontre avec des gens qui me sont très chers aujourd'hui et qui habitent ce petit hameau de Tuktoyaktuk et pour lesquels j'ai eu envie d'écrire parce que j'ai eu envie de faire entendre leur voix et au-delà justement du simple défi, c'est vraiment une histoire que je suis en train de tisser, bien sûr avec cette notion d'innovation qui me paraît très importante, hein. Je pense que l'énergie solaire, c'est vraiment une énergie dont on devrait utiliser plus souvent. Je vois dans les ports qui sont les nôtres en Bretagne, tous ces bateaux qui font la navette parfois pour acheminer les plaisanciers jusqu'à leur bateau, pour éventuellement les traversiers qui permettent de relier une rive à l'autre. Je me dis, mais une énergie solaire bien dépensée serait parfaitement judicieuse dans un univers comme le nôtre aujourd'hui. D'abord parce que ça permet une navigation silencieuse, donc c'est extrêmement respectueux de notre environnement. Et puis, évidemment, en première chose, ça évite la pollution. Donc c'est indispensable aujourd'hui de développer cette énergie. C'est pas moi, évidemment, qui vais révolutionner le monde, mais à chaque fois que nous voyageurs partons dans ces modes d'innovation, on se dit que on permet momentanément une vitrine, on donne la lumière à ces innovations qu'on essaye de partager avec le public. Et c'est peut-être ça aussi notre rôle. On est peut-être les artisans du rêve, mais on est aussi les artisans de ce que demain pourrait être en accord avec ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Alors oui, pour répondre à ta question, pardon, bien sûr que oui, l'histoire va se continuer. Toutes les différentes expériences que j'ai pu vivre jusqu'à présent, elles m'ont apporté beaucoup d'enseignements. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un bagage bien rempli, d'avoir fait des rencontres clés avec des gens justement spécialisés autour des énergies solaires, dont Raphaël Donjean, qui a été celui qui m'a un petit peu donné l'idée, puisqu'il avait, entre 2011 et 2012, fait le tour du monde avec son bateau Planète Solaire. On n'est jamais le premier, mais moi, je trouve intéressant justement de s'appuyer sur les premiers pour continuer à écrire cette histoire.
Aujourd'hui, tu dois fourmiller d'idées. Qu'est-ce que tu rêves d'accomplir, Anne ?
Bien sûr que j'ai très envie et je vais retourner en Arctique parce que c'est ça qui me mène aujourd'hui. Mais je me rends compte que justement le fait de ne pas pouvoir y aller tout de suite, le fait d'avoir dû un peu reporter les projets qui étaient les nôtres cette année, permet aussi de leur donner la maturité et me permet aussi ces rencontres que je ne connais pas encore qui vont peut-être dessiner le projet Arctique très différemment de ce que je l'imagine aujourd'hui. Mais en tout cas, oui, cette vie d'aventure, elle ne va pas s'arrêter tout de suite. Et je compte justement sur la vie pour me surprendre encore beaucoup.
Allez, avant de se quitter, Anne, puisque tu es face à la mer, au Cap Sizun, à l'extrémité de la Bretagne, dis-nous ce que tu vois. Comment est la mer aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, on a beaucoup de vent. Depuis hier, on a de jolies rafales sur le Cap Sizun. Comme on n'a pas beaucoup de forêt, que la végétation est très rase, ça lève une très belle mer aussi. Puisque là, ce que je vois devant moi, c'est ces jolis moutons blancs qui nous disent que pour ceux qui ont le mal de mer, il faut mieux rester à terre aujourd'hui. Mais que pour ceux qui aimeraient profiter de la mer, c'est le moment ou jamais.
On a envie de partir en mer avec toi, Anne, même si tu as plus l'habitude d'y aller en solitaire. Merci infiniment, Anne, de t'être prêtée au jeu de l'entretien pour Vie d'aventure. Et puis, j'ai qu'une seule chose à te souhaiter, c'est que tu puisses repartir en Arctique ou n'importe où ailleurs, avec un kayak, avec un bateau ou n'importe quel moyen de locomotion, parce que je sais que ton imaginaire est au moins aussi virevoltant que tes idées.
Bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, je vais essayer de transgresser encore longtemps ces frontières du possible parce que je crois que c'est indispensable dans la société de consommation, on va dire un peu polluante qui est la nôtre. Et c'est important de s'engager, c'est important à tout niveau. Et donc, plus que l'aventure, moi je crois que ce sont mes engagements que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui.
Une dernière question, Anne, parce que une aventurière comme toi a forcément un regard particulier. Comment vois-tu le monde évoluer après cette pandémie qui a cloué la planète ?
J'ai peur malheureusement que nous reprenions nos vies d'avant comme si de rien n'était, parce qu'on a aussi cette faculté de résilience qui est bonne certaines fois, mais là qui aurait pourtant nécessité qu'on se remette en question. Mais je crois que c'est un peu comme lorsque je rentre à terre d'un long voyage. Il faut pas longtemps, hein, une semaine, 15 jours, avant que les mauvaises habitudes ne reprennent le dessus. Donc j'aimerais croire quand même que chez certains d'entre nous, nos attitudes et notre regard vis-à-vis de cette nature dont on dépend et avec laquelle on doit vivre absolument en harmonie, j'aimerais croire que ce regard va changer.
Mais je te sens pessimiste.
Non, je suis réaliste, tout simplement.
Merci Anne.
Je t'embrasse.
Salut Anne, je t'embrasse.
Vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1. Ouh.